Spirituel aujourd'hui, encore un jeune bienheureux. Hier, on en avait un de 24 ans, aujourd'hui 26 ans. Hier, un Italien, aujourd'hui un Basque espagnol. Il s'appelle Domingo, c'est-à-dire Dominique, si vous voulez. Iturrate, c'est un nom basque. I-T-U-2-R-A-T-E, Iturrate. Le nom de sa mère, c'est Zubero. Et comme on fait chez les Basques et les Espagnols, on porte les deux noms, le nom de la mère après le nom du père. Ça lui donne donc le nom de Domingo Iturrate Zubero. Il est mort le 7 avril 1927, à 26 ans. En Pays Basque, il y a la Biscaye, c'est une commune, c'est une région qui est à 25 kilomètres environ au sud-est de Bilbao. On entend souvent parler de Bilbao Pays Basque, étant donné les désirs d'indépendance du Pays Basque, qui ont leur langue, leurs coutumes, je dirais même leur peuple, leur race. Ils sont, semble-t-il, plus ou moins descendants d'anciens Égyptiens, où on ne sait pas d'où ils viennent, car leur langue est assez unique, un peu comme les Hongrois. Alors, il y a le village de Dima, où il est né, D-I-M-A, qui est situé au cœur d'une vallée verdoyante. Bilbao, c'est le deuxième port d'Espagne, c'est très important. Vous savez, c'est au nord de l'Espagne, près de la France, le Pays Basque. Et ce bourg de Dima, aujourd'hui, il n'a qu'à peu près 1300 habitants, mais en 1900, quand il est né, lui, ou à peu près, il en comptait 6000 habitants. Donc, il est originaire de Dima. Et son père s'appelait Simon Iturrate. Tout jeune, 32 ans, l'épouse Marta Zubero. Et elle portait aussi le nom de sa mère par après, Soloeta. C'est très compliqué, finalement. Elle avait 10 ans de moins. Et en 1900, donc, ces deux jeunes mariés se sont installés dans une nouvelle maison qui a été bâtie spécialement pour eux. Ce sont des cultivateurs, disons, un peu fortunés, qui possèdent en propre leur demeure, puis les champs qu'ils travaillent. Puis en plus, ils ont deux fermes qu'ils louent. Alors c'est donc là que le 11 mai 1901, la même année que Pier Giorgio Frassati, dont je vous ai parlé hier, ce saint extraordinaire, merveilleux, que j'aime beaucoup. Ils sont nés la même année. Il est né donc Dominique le 11 mai 1901. Il est l'aîné de 11 enfants. Il est baptisé le lendemain. Il reçoit le nom du saint du jour, c'est-à-dire Saint Domingo de la Calzada. C'est Saint Dominique. Et le fondateur des Dominicains. Puis en octobre 1908... il va pour la première fois à l'école. Là, il montre un goût prononcé pour l'étude. Il va faire des études jusqu'à la grégorienne, quand il va rentrer chez les Trinitaires. Et puis, il se révèle un des meilleurs élèves de sa petite école. Et, vu ses dispositions, mais son père lui fait même donner des leçons particulières. À la maison, c'est un garçon obéissant, comme bien des enfants qui sont de tempérament obéissant, quoi. On le charge d'un travail, ça va, mais son obéissance est parfois un petit peu hésitante parce qu'il préférerait ses livres. Il aime la lecture, il aime les études. Alors il devient très jeune enfant de cœur à la paroisse. Il sert tous les jours la messe à 7 heures, et parfois même celle de 6 heures. C'était comme ça, je me souviens, c'était comme ça dans les années 30 à la paroisse Sainte-Madeleine d'Outremont pour moi. Hein, oui, on faisait ça. On habite aujourd'hui une autre planète. Hein. On vient de l'entendre dans la demi-heure qui a précédé avec l'abbé Marié, un autre monde. Et jamais non plus il ne manque le catéchisme, il aime ça. À 7 ans, il a commencé à se confesser sérieusement et intelligemment. À l'ascension de 1911... Donc, il a 10 ans, Dominique fait sa première communion. Il est très respectueux à l'égard de ses parents, puis des prêtres, puis de ses professeurs. Et pas une fois, on ne lui fait le moindre reproche. Oui, ça existe, des enfants sages comme ça, qui sont pas nécessairement niais. Et un jour, alors que Dominique vient se confesser, il y a un plus ami là, qui se met à l'insulter. Et Dominique se tait, puis il poursuit sa route, il en dure. Il est suivi par l'autre qui multiplie les taquineries parce qu'il s'est confessé. Alors, il se retourne à un moment donné, ce Dominique, puis il lui dit, « Si je m'étais pas confessé, tu verrais comme tu me le paierais. » On voit qu'il y a de l'énergie, mais il se contrôle. Et vers sa 10e année, donc, au moment de sa communion, là, c'est ce que rapporte sa mère, Dominique se sent tiré par la vie religieuse. On pensait qu'il se ferait franciscain, parce qu'il y en a deux dans la famille. Il y a même un capucin, c'est une sorte de franciscain, quoi. Puis en outre, il y a deux prêtres séculiers, puis trois religieuses. Comme vous voyez, ça ressemble à nos familles d'autrefois, ici au Québec. Mais Dominique demande à entrer chez les Trinitaires. Les Trinitaires d'Algorta, au Pays Basque. Et il y part le 30 septembre 1914, accompagné de son père, puis de ses deux frères, Pierre et Juste. En route, son père lui fait remarquer qu'il va lui manquer pour l'aider aux travaux domestiques, puisqu'il est l'aîné, le plus vigoureux, le plus fort. Mais il a 13 ans, quoi. Mais Dominique réplique que sa vocation, c'est d'être religieux. À 13 ans, il entre. Et malgré sa déception, le père conduit son garçon jusqu'à Algorta. Puis comme c'est un bon catholique, bien il donne 5 ans pesetas pour sa pension. Et puis, il repart en pleurant. Le père maître des Trinitaires reçoit l'adolescent et l'accompagne au local des aspirants. Puis Algorta, c'est un petit port de pêche. Et là, c'est très joli, c'est sur la crête de Saint-Martin qu'il y a le couvent des Trinitaires, fondé en septembre 1890, donc 20 ans plus tôt. Et un peu plus, 25 ans. Puis ça domine les autres maisons. Hein, puis du côté nord, bien, on aperçoit l'azur de la mer. Et en 1892, le monastère a été autorisé à recevoir des aspirants âgés d'au moins 12 ans. C'était la coutume à l'époque, c'est plus permis ça. Il y avait un règlement approprié pour ces jeunes. Mais il fallait aussi que leur présence ne trouble en rien la vie de la communauté des adultes. À 9h du soir, donc, Dominique suit ses compagnons à la chapelle où l'on récite les litanies. Bon. Un ancien l'avertit alors qu'après cet exercice, ce sera le silence complet. On appelle ça le silence de nuit. Et au second étage, le père maître lui désigne son semblant de cellule, où le petit Dominique ne dort presque pas. Et déjà 4h30 du matin, sonne le lever. Il trouve que c'est un peu tôt, même s'il est habitué à sortir du lit de bonne heure pour aller servir la messe parfois à 6h, Et le long du couloir sont alignées des tables de toilette, et quelques minutes plus tard, bien, tous ces jeunes se rendent à l'oratoire pour l'offrande de leur journée. Ça ressemble un peu à la vie de bien des pensionnaires qui m'écoutent, vous qui avez 65, 70, 80 ans peut-être, hein, vous vous souvenez de ce temps-là, c'était comme ça dans nos institutions d'enseignement, et à 5h donc, ils vont au chœur, eux, pour une demi-heure d'oraison, dans une totale obscurité, hein. Et ensuite sont récités ce qu'on appelle les petites heures, hein? Prime, tierce, sexte, et puis c'est suivi de la messe. Et Dominique subit tout cela sans comprendre, il parle le basque lui, hein? C'est en latin. Puis seule la messe lui est familière. À 6h45, tout est fini, puis c'est le déjeuner, enfin. Mais ce qui surprend le plus désagréablement cet adolescent basque, c'est que ses camarades ne parlent pas le basque, parlent le castillan, l'espagnol, comme. Et c'est même une désobéissance de parler en euskera, en euskera, la langue basque. Et c'est puni. Les autres se moquent de lui, parce qu'il ne parle pas correctement l'espagnol, le castillan. Un de ses camarades, heureusement qui connaît les mêmes difficultés, lui confie qu'il songe à quitter les Trinitaires, mais Dominique, qui a plein de zèle puis qui veut vraiment devenir religieux trinitaire, le persuade de rester. Alors ils sont deux. Il prend même la peine de lui expliquer en basque durant un cours entier ce que les professeurs ont enseigné en castillan. Et plus tard, à Rome, parce qu'il va aller faire des études, comme je vous ai dit, à la grégorienne, il jugera que tout cela est inconcevable. Il est fier de la foi catholique du peuple basque. Mais il trouve épouvantable d'apprendre le catéchisme en espagnol à des enfants qui ignorent cette langue. Alors, selon le témoignage d'un de ses compagnons, Dominique Iturrate, durant les premiers mois de son séjour à Algorta, chez les Trinitaires, mais il y avait des petits défauts dus à son âge, à son éducation, mais il s'en est corrigé assez vite. Et alors, outre les exercices de piété, de méditation, messe, rosaire, chemin de croix, chaque jour comporte 4 heures de cours. C'est beaucoup pour des enfants de 14 ans. 3 heures d'études, 3 quarts d'heure de chant. C'est comme dans un monastère. Et puis, on tient le principe que, pour former des volontés fortes, il faut apprendre à obéir. Alors, le règlement auquel Dominique se plie, ça sert à tremper les vraies personnalités. Le dimanche seulement, les juvénistes peuvent recevoir des visites. Puis un jour, sa mère et une de ses sœurs viennent le voir, et avant même de les avoir salués, il demande « Avez-vous assisté à la messe? Comment l'avez-vous entendu? » Hein? Il a déjà une espèce de désir de perfection chez les autres, puisqu'il cherche à se perfectionner lui-même. Il est jeune. Hein? Ainsi, sa première préoccupation, c'est de savoir si elles ont accompli leur devoir du dimanche, et à un moment donné, là, sa mère lui dit, elle l'appelait Chomin, ou Chomine, c'est le diminutif, ça, de Dominique. « Veux-tu revenir à la maison? Tu sais que ton père est seul, il a beaucoup de travail. » Alors Dominique se tait. Sa mère insiste, et après un silence, il répond, « Pourquoi me demandes-tu cela, maman? Je cherche à rester ici, et je suis très content. » Et cette fermeté douce impressionne sa mère, à tel point qu'elle n'a jamais pu oser le questionner sur ce sujet. Un de ses camarades a témoigné, et la deuxième année, il a commencé à mener une existence plus pieuse et plus mortifiée. On le voyait entreprendre la vie plus parfaite à laquelle il aspirait. La troisième année, il a intensifié un corpus par un ardent amour de l'Eucharistie. Grand amour aussi pour la Sainte Vierge qu'il a découverte de plus en plus. Vous constatez aussi clairement, dit-il, son goût de la pénitence. Il y a un autre qui a déclaré que de 1915 à 1916, il avait bien connu et qu'il a toujours vu judicieux et humble, obéissant et appliqué à l'étude. Et lors de sa dernière année, dit, on pouvait lire dans ses yeux la ferveur. Il se distinguait par sa modestie, son silence et son amour du travail scolaire. Et c'est avec ses qualités et bien d'autres qu'il sera béatifié. Il est bien heureux. Pendant la méditation, le matin, on l'aperçoit très, très recueilli. Il ne s'appuie pas. Il ne bouge pas. Il est tout jeune, mais il bouge pas. Après la communion, son attitude paraît extatique. Il goûte la récitation des ce qu'on appelle les heures canoniales dont je viens de vous parler. Là. Prime, tierce, sexe, non. Les vêpres, etc., qu'il récite avec les pères trinitaires. Il aime également lire les auteurs spirituels puis les biographies de Saint Louis de Gonzague, ce jeune jésuite, puis de Saint Gabriel de la Dolorata aussi. Je vous en ai parlé de ces saints. Et dès le début, il a une grande dévotion, étant trinitaire, à la très sainte Trinité. Il sera fasciné par le mystère trinitaire. Et c'est central. Il est grandement dommage que trop de chrétiens, trop de catholiques, nous ne soyons pas centrés sur la très sainte Trinité. Alors chaque jour, on récite ce qu'on appelle le Trisagion, le Sanctus si vous voulez, saint, 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 à la très sainte Trinité. Récite sans communauté. Et puis il le répète personnellement dans son cœur. Puis il vit en présence de Dieu, en présence de la Trinité, comme un bon jeune trinitaire. Dès 13 ou 14 ans, le petit Dominique, le bienheureux Dominique Iturrate, basque, n'est-ce pas, Il veut s'adonner à des pénitences extraordinaires. Il a lu ça dans les Huit Saints. Alors, il en demande la permission à son père maître, le maître des novices. Mais ça lui est évidemment refusé. On le trouve de toute façon un petit peu maigre, un petit peu affaibli. Alors, il se contente d'observer le silence avec précision. Et durant sa dernière année à Algorta, où il se forme, c'est à peine s'il a proféré, dit-on, quelques paroles en dehors des conversations nécessaires et de récréation. Les difficultés de la puberté le surprennent. Il s'étonne de tout ça, de ce phénomène qui se perd en lui. Ça le désoriente. Alors là, ça arrive, malheureusement, il a des doutes, des scrupules. Puis, une espèce d'obscurité de l'âme. En somme, il souffre d'une petite contention, ce qu'on appelle la contention. Et plus tard, à Rome, son directeur spirituel l'interroge. C'est parce qu'il est très paisible, il est devenu à Rome un jeune adulte, un jeune trinitaire, remarquable. Il dit, cette paix inaltérable, l'avez-vous toujours eue? Et le frère Dominique répond, l'année de mon entrée à Algorta, j'ai souffert de grandes sécheresses d'âme, d'obscurité, de doute et d'angoisse. Une voix intérieure me reprochait mes actions. J'entendais au fond de mon cœur que je ne travaillais pas avec toute la perfection nécessaire. Tandis que je découvrais en moi de nouvelles fautes et des défauts, et me voyant enfoncé dans une telle pauvreté spirituelle, puis dans une telle misère, j'en suis venu à me persuader que j'étais au nombre des réprouvés et des condamnés, ce qui me causait une terrible affliction. Et en cet état, je ne pensais qu'à mortifier mon corps, à recourir au patronage de la Sainte Vierge et à crier vers le ciel. Il risquait de devenir malade spirituellement. Il me semblait qu'étaient fermées pour moi les portes de la miséricorde de Dieu, et que personne n'entendait mes cris misérables et mes prières. Et j'ai persévéré néanmoins en mes bonnes dispositions, puis je me suis mortifié, j'ai accompli avec le plus possible d'exactitude et de perfection tout ce qui concernait ma vocation, le service de Dieu. Et finalement, grâce à l'intercession de Marie, la Sainte Vierge, Dieu a eu pitié de moi. Et le jour de ma profession simple, vous savez, ils font des vœux simples de 3 ans. Hein? Le jour de ma profession simple, cessèrent les tracas intérieurs. Et j'ai reçu le don de la paix. Et depuis, ma sérénité d'âme est habituelle, ma paix et la tranquillité inaltérable. Hein? On peut dire que durant 4 années, les 3 d'Algorta, là, puis celle de son noviciat ailleurs, Dominique est passé par une véritable nuit mystique. On appelle ça comme ça. Une nuit mystique. Et seul son confesseur était au courant. Hein? Un de ses meilleurs camarades témoigne d'ailleurs. Il a souffert de scrupules à la fin de son postulat, qui est avant le noviciat. Il lui semblait pécher en tout. Et ses tourments ont miné sa santé. C'est triste, ces maladies spirituelles. Hein? La contention, puis se torturer comme ça, et ne pas avoir assez de confiance en la miséricorde et la douceur de Dieu et sa tendresse. Hein? Et de savoir que quand on fait son possible, on fait son possible. Alors, doué d'une intelligence normale, il a quand même d'excellentes notes. Il est l'un des premiers chez ces jeunes trinitaires. Et grâce à sa volonté ferme et persévérante, il réussit très très bien, et en plus du solfège quotidien, il s'adonne le soir un bon moment au piano. Il aime la musique, et le collège ne possède pas de terrain sport. Alors Dominique, en bon basque, c'est un basque, il improvise un petit fronton pour jouer à la pelote basque. Il aime beaucoup aussi le jeu de cartes. Son père aimait beaucoup jouer aux cartes. En récréation, tous le recherchent d'ailleurs, puis le père maître le propose comme modèle aux autres novices. Le 10 décembre 1917, donc à 16 ans, le jeune Dominique Iturrate quitte le séminaire d'Alcorta. Et puis, il possède à présent une pleine maturité physique et psychique. Il est calme. Il est conscient de ses responsabilités. Quelques jours avant son départ, ses parents sont venus lui faire leurs adieux. Le matin donc du 10 décembre 1917, il y a 13 juvénistes qui prennent le train de Bilbao Santander. Ils se rendent au sanctuaire de Notre-Dame, bien à Paradida, et chaque novice reçoit sa cellule. C'est vraiment la préparation au vœu, dans un couvent de Trinitaire. Et là, Dominique, au printemps de cette même année, fait une retraite de 10 jours, c'était comme ça, et c'est toujours comme ça, dans un total silence. Le 11 décembre, il y a un père qui lui donne l'habit trinitaire, puis le nom religieux de Dominique du Saint-Sacrement. Il n'a que 16 ans. Je le rappelle, 16 ans. Et le noviciat commence. Il est donc instruit de l'esprit des obligations de l'ordre des Trinitaires, qui est un très bel esprit. C'est un ordre qui a été fondé il y a très longtemps, au Moyen-Âge, dans le but de racheter les prisonniers chrétiens que les musulmans avaient faits en Afrique du Nord. Un Trinitaire s'offrait dans ce magnifique costume blanc avec la croix bleue et rouge, la tonsure, les sandales, et il se présentait aux musulmans, s'offrait comme prisonnier pour la libération, souvent d'une centaine de laïcs qui étaient réduits à l'esclavage par les musulmans du Maghreb en Afrique du Nord. Alors, réveillés chaque jour à 4h30, bien à 5h, les novices arrivent au chœur. On leur lit alors les points de méditation, puis chacun dans l'obscurité puis le silence, ça donne à leur raison mentale. Suivent les 4 petites heures, là, puis la messe conventuelle. Et à 6 heures, après un simple petit déjeuner, commencent les exercices du noviciat, et chacun dans sa cellule, ça donne encore à la prière, puis à la lecture spirituelle, ça en fait beaucoup, hein. La matinée se poursuit par les instructions du maître des novices, puis par les différents travaux d'entretien de la maison, mais là, à midi, après l'examen particulier, on se rend enfin au réfectoire, en psalmodiant le miséréré, le psaume 50. Le repas, toujours maigre, on ne mange pas de viande, s'accompagne d'une lecture et d'exercices de mortification. Il est suivi à 13h de la sieste, puis à 14h des vêpres et des complies. C'est assez curieux, hein? C'est pas comme chez les bénédictins, on récite toutes ces heures-là au bon moment, aux vraies heures. Mais là, c'est différent. Et puis même quand on récite dans l'après-midi, comme ça, les matines du lendemain, puis les laudes du lendemain, c'est curieux, hein? Moi, je comprends pas tellement bien ça. Et au milieu de l'après-midi, là, les novices entretiennent le sanctuaire, puis ils travaillent au champ. Et c'est l'unique grande récréation de la journée. Le soir, bien, il y a en lieu des exercices de dévotion encore. Imaginez, chapelet, trisagion, neuvaine, et de nouveau, la lecture spirituelle, la méditation, qui précède une légère collation, puis une brève récréation, qui est supprimée pendant le temps de l'Avent avant Noël, là, puis en carême avant Pâques. À 21h, bien, ce sont les dernières prières encore, mon Dieu, puis le coucher. 3 jours par semaine, les novices se donnent la discipline, que les temps ont donc changé heureusement. Tout ça a changé, c'était des excès invraisemblables. Hein? Heureux jour, va écrire Dominique, où nous nous aimions les uns les autres pour combattre le moi, égoïste, et cheminer vers la perfection. Il demeure modeste. Ce qui lui est pas naturel, d'ailleurs, un Basque. Et c'est une conquête pour lui. Les Basques sont fiers. Aucune hâte ni désinvolture dans sa démarche. Nulle affectation à sa personne. Jamais n'élève la voix. Puis on l'aperçoit toujours serein. Puis au printemps de 1918, le père Jean de la Trinité, ou Juan de la Trinité, définiteur général, passe au couvent. Et frère Dominique lui est présenté, puis le visiteur déclare ensuite au supérieur, « Un jour, votre Dominique sera très grand et même extraordinaire. » Oui, il avait été en effet particulièrement édifié en le voyant. Ça paraissait ce futur bienheureux, Dominique Iturrate. Il se prépare donc à la sainteté chez les Trinitaires. Chaque matin, il médite... ce Domingo ou Dominique Iturrate, chaque matin, il médite la passion du Christ. Puis le soir, comme Saint Louis de Gonzague, ce jeune jésuite, très grande famille, il réfléchit sur lui-même. Puis, ce qu'on appelle les fins dernières, on n'utilise plus cette expression, ça veut dire sur la mort, hein? Sur la vie éternelle, sur la rencontre de Dieu pour l'éternité, la préparation à cette grande et belle rencontre, ou, comme disait Pier Giorgio Frassati hier, sur le plus beau jour de notre vie. Mais en faisant ça, il se livre pas simplement à des simples raisonnements, des spéculations, des pertes de temps. Non, c'est l'amour qui sort de son cœur en pensant à ces grands jours-là, nos derniers jours. Parce que c'est une âme d'oraison que Dominique Iturrate. Il demeure à genoux, les yeux clos, sans s'appuyer, ni se mouvoir toujours. Il est uni à Dieu. Il s'est proposé à ne commettre aucune faute grave, ni même aucun péché véniel délibéré. C'est-à-dire une petite faute. On appelle ça un péché véniel, je le dis pour les jeunes. C'est une faute qui nuit à la recherche d'un amour plus pur pour Dieu, qui établit comme des petites barrières, qui empêche d'aller de l'avant, dans le don de soi, dans l'amour. C'est ça des péchés véniels, des petites barrières. Une faute grave, c'est une grosse barrière. Alors au sanctuaire, il n'y a que quelques pèlerinages à la belle saison, et le culte de la Vierge ne comporte pas de grande solennité. Ça se réduit à des messes matinales chantées seulement les dimanches et les jours de fête. Une espèce d'austérité liturgique, si on n'est pas chez les bénédictins. Mais ça favorise la piété personnelle de ce futur bienheureux Dominique. Le matin, il remercie Dieu de la communion reçue. Le soir, il se prépare à celle du lendemain. Et pour ça, bien, il se confesse fréquemment. Il aime servir toutes les messes qu'il peut. Mais son rôle de chantre le prive souvent de cette grande joie. On aurait pu aller lui porter la communion là où il chantait, mais non. Durant son noviciat, il continue à cultiver la musique. Le soir, lorsqu'il n'a rien à faire de particulier, qu'il l'en empêche, bien, il continue toujours dans la musique. Et alors, après avoir prié au chœur, il joue de l'harmonium, puis il chante la messe des anges. La fameuse messe des anges que tout le monde connaît. Et pour lui, d'ailleurs, toutes les occasions sont bonnes pour se tenir devant le Saint-Sacrement. Oui, devant le tabernacle. Où Jésus est là, dans sa présence réelle. Il est toujours dans une présence réelle partout, évidemment. Mais là, c'est une présence eucharistique réelle, concrète, sensible. C'est comme si Dieu surgissait dans le temps et l'espace. Ce qu'il veut surtout, c'est, comme il écrit si bien, faire une cellule en mon cœur où je penserai toujours à Dieu. Faire une cellule en mon cœur où je penserai toujours à Dieu. Alors il se maintient souvent dans le silence, évidemment, puis le recueillement, et pourtant, il est doux puis affable envers tout le monde. Il pense aussi que l'ascèse favorise sa prière, il a bien raison, et c'est pourquoi tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis, il se soumet à un jeûne assez rigoureux, pas trop quand même. En dehors des repas, il ne prend pas d'eau, ce qui n'est pas facile, même lorsque les travaux des champs se font par grande chaleur. Je ne recommande pas ça, c'est pas bon pour la santé, ça. Un jour, en récréation, ses confrères lui reprochent de manger trop peu. Alors un peu honteux, il répond avec simplicité, « Dans le manger et le boire, tout est question d'habitude, mes frères. Si l'on s'accoutume à manger beaucoup, le corps réclame davantage. Si on s'habitue à manger peu, c'est à peine si on éprouve le besoin de nourriture. Et moi, je le sens à peine. » Mais c'est jouer avec sa santé, ça. Jamais il ne se plaint des mets qui sont parfois bien peu abondants et pas très bons. Il y a un témoin qui déclare, « Nous avons tous constaté sa mortification quasi quotidienne, et ça consistait à, chose curieuse, à baiser les pieds des religieux. » Il y a là quelque chose de presque détraqué, à mon sens. Et trois fois par semaine, il se donnait la discipline, le temps d'un miserere, le psaume 50. Et il le faisait avec vigueur. Durant la semaine sainte de 1918, sa discipline était même tachée de sang. Toujours un petit peu d'exagération chez ce jeune homme. Il va se rétablir, il va trouver l'équilibre. On dit qu'il portait un cilice. Et en hiver, pour sentir le froid, c'est un témoin qui dit ça, il se couvrait peu. Mais le père maître lui a ordonné de s'habiller plus chaudement. Dans sa cellule, il se tenait souvent à genoux. Le père maître, l'ayant appris, le lui a interdit. Et il a obéi. Jamais il n'a commis volontairement la moindre faute contre la règle. Non, vraiment. Il n'a jamais critiqué un supérieur non plus. Ce sont les témoignages. Le bienheureux Dominique Iturrate s'adonne aux tâches ordinaires de la maison. Il fait le ménage comme tout le monde. Il ne visse des broussailles aussi les collines pour créer des pâturages pour les animaux. Ou bien, il laboure les champs. Et Dominique, depuis son enfance, connaît bien tous ses travaux. Il est né sur une ferme. Au printemps, on récolte le foin et chacun admire son ardeur et ses connaissances, ce qui ne l'empêche pas de se tenir en présence de Dieu. Au noviciat, on ne possède que quelques exemplaires de la règle, alors pour son usage, frère Dominique les recopie de sa main. Il étudie aussi l'histoire de l'ordre des Trinitaires afin de s'imprégner de son esprit qui est très beau. C'est grandiose, les Trinitaires. Vous savez que souvent les Trinitaires sont aumôniers de prison. C'est dans leur esprit la libération des âmes, libération des prisonniers. Plus d'une fois, ses confrères lui ont reproché de prendre trop peu de nourriture et un jour qu'il quitte donc le réfectoire sans avoir quasiment mangé une bouchée, le surveilleur le lui fait remarquer et Dominique lui répond qu'il a beau se forcer, il n'arrive pas à avaler, son intestin s'est rétréci. Alors, quelques pères s'entretiennent de cette situation puis il leur semble que le novice devrait temporairement abandonner l'ordre et partir se reposer dans sa famille. Le frère Dominique n'est pas d'accord. Il va trouver le père maître. On ne sait ce qu'ils se disent, mais ce qui est sûr, c'est que le jeune frère retrouve sa joie. Il a été d'ailleurs toujours très heureux au noviciat, comme en témoigne sa tante, une tante qui l'a beaucoup aidé, Justa. Il y a un frère d'ailleurs qui s'appelle Juste, en l'honneur de sa tante Justa. Et il donne à entendre à sa tante qu'il lui est très reconnaissant d'avoir été l'instrument de Dieu pour le faire entrer chez les Trinitaires. Elle l'a aidé, comme quoi on peut aider les jeunes. Et le 14 décembre 1918, dans une journée très enneigée, le frère Dominique du Saint-Sacrement fait sa profession simple, 3 ans pour 3 ans. Hein. Il a 17 ans et 7 mois. Et ce jour-là, cesse donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ses tourments intérieurs. Hein. Il connaît dès lors une totale paix spirituelle, puis va trouver son équilibre, ce qui en fera un bienheureux, un saint. Les nouveaux prophètes restent à Bien Aparecida, et après les fêtes de Noël, ils attaquent la philosophie. Dominique se distingue par son application. D'autres sont plus doués, plus brillants que lui, mais par sa persévérance dans l'effort, il arrive toujours à se distinguer aux examens. Il est d'ailleurs choisi en 1919, l'année suivante, pour être envoyé à Rome. Il est très heureux de cela. Et il désire avoir un bon directeur spirituel là-bas. Il veut vivre en toute sa rigueur et les observances de l'ordre, mais surtout apprendre à vraiment aimer. Et en octobre 1919, arrive à Aparecida quelques-uns de ses anciens compagnons d'Algorta, qui étaient au postulat, et c'est Dominique qui leur ouvre la porte, et le 3 octobre, il assiste à la prise d'habit des nouveaux novices, et ça lui réjouit le cœur. Quelques jours plus tard, avec 3 confrères, ils se mettent en route pour la ville éternelle, et là, à Bilbao, grande ville basque, il y a sa tante, Justa, qui est là, qui lui offre d'aller à Algorta, où il recevrait la visite de ses parents. Et c'est ce qui arrive, et le 11 octobre, bien finalement, les 4 trinitaires qui partent arrivent à Barcelone, en pays catalan cette fois-ci. C'est une partie de l'Espagne, ça qui est près de la France encore, mais le long de la Méditerranée. Et là, ils demeurent 3 jours. Et comme il n'y a pas assez de chambres, le frère Dominique cède la sienne et couche par terre. Ça ne le gêne pas. Durant ce séjour, au lieu de visiter la ville, il va à Notre-Dame del Pino. Il fait de fréquentes visites au Saint-Sacrement, puis ils enlèvent leur costume de trinitaire, qui est très beau, puis vêtus en habits séculiers, les frères s'embarquent pour Gênes, ce grand port de l'Italie, dans le nord de l'Italie. Et sur le bateau, il y a un protestant un peu fanatique qui ignore l'identité religieuse de Dominique et... il attaque l'église catholique. Ça se faisait à l'époque, hein? Avant l'écuménisme, ça. Et Dominique se contente de lui dire « Votre conversation, monsieur, m'est plutôt désagréable. Je vous prie de prendre note que je suis catholique et que je suis profondément convaincu de la vérité de notre religion, alors s'il vous plaît. » Ne se fâche pas. Le 15 octobre, ils prennent le train pour Rome, où ils arrivent le lendemain et se rendent au couvent de San Carlos, qui est proche du Quirinal. Et au second étage, la seconde cellule est donnée à Dominique. Là, il va l'occuper jusqu'en 1926, donc de 1919 à 1926. Il occupe la même cellule à Rome, puis il est étudiant à la Grégorienne. Le 4 novembre 1919, il se fait inscrire, donc, à l'Université des Jésuites, la Grégorienne. Il y a un prélat romain, le futur cardinal Salotti, qui fréquente le couvent des Trinitaires. Il remarque le jeune prophète, puis il va dire, « Il me sembla qu'il était hors du commun, avec quelque chose de surnaturel. » Et j'ai dit au supérieur, « Ne perdez pas de vue ce jeune, Dominique. » Suivez-le en sa conduite, car il me semble être un autre Dominique Savio. Cette impression subjective, ajoute le cardinal, s'est transformée bientôt en une intime et profonde conviction. À Rome, on le trouve un peu pâle, un peu délicat et maigre. On fait venir le médecin de la maison et après consultation, il déclare qu'il n'est ni tuberculeux ni malade, mais disons d'une nature un peu lymphatique, et il ne prescrit aucun régime. Et le bienheureux Dominique Iturrate doit cependant user de médicaments, car il souffre de troubles d'estomac. Et à San Carlos, la vie ressemble à celle du noviciat. Mais vers 8 heures du matin, il va au cours à la Grégorienne. Et le soir, à l'église, il y a le chapelet, suivi d'exercices de piété, qui comprennent des chants, ce qui lui plaît beaucoup, les chants. Il aime chanter la gloire de Dieu et parler à Dieu de cette façon. Ou à la Vierge. Et les 4 dernières années de sa vie, Dominique va diriger ses confrères au cours de ses soirées de prière. Il dirige le chant. En dehors de ses études, il lit beaucoup la Bible. Il lit l'Imitation de Jésus-Christ, les Gloires de Marie de Saint-Alphonse, les Exercices de Perfection de Rodriguez. C'était les lectures de l'époque. L'âme de tout apostolat de Don Chotard, dont je vous parlerai, que lisait aussi le Pier Giorgio Frassati, l'âme de tout apostolat de Don Chotard, un classique. Puis il lisait aussi de l'Eucharistie à la Trinité du Père Bernardo. C'est un très beau livre de l'Eucharistie à la Trinité, c'est paru dans la collection Foi Vivante, c'est toujours en publication ça. Et après sa première année à la Grégorienne, il obtient son baccalauréat en philosophie, après la deuxième sa licence, ce que j'ai obtenu à l'Université de Montréal, une petite licence, c'est pas bien grave. Et après la troisième, là, il a son doctorat, ce que je n'ai pas du tout. Et il l'a obtenu en 1922. Et le 6 mars 1921, lors de la Saint-Thomas, de la fête de Saint-Thomas, à l'époque, il avait soutenu une argumentation académique. Alors, il est donc docteur à 21 ans. Ça ne l'impressionne pas du tout, il n'a aucune gloriole de ça, c'est comme un vrai religieux. Il est exemplaire en piété, en obéissance et en modestie. On voit qu'il lutte intérieurement pour acquérir plus de perfection. D'ailleurs, il écrit « La perfection ne consiste pas à faire beaucoup de choses, c'est ce qu'il dit, hein, mais à faire bien ce que l'on sait devoir être agréable à Dieu. » Mieux raison, c'est simple au fond. Il le permet, tout en lui permettant de petites mortifications, modère ses transports. Il lui impose, par exemple, de ne pas se coucher tard et donc de dormir suffisamment. Et après des années passées, comme ça, en octobre 1922, Rocca di Papa, il trouve au couvent des changements parmi les supérieurs. Alors, il est désigné comme responsable des étudiants. Tout jeune, responsable des étudiants. Puis après des exercices spirituels, puis une confession générale, il est admis à la profession solennelle, donc définitive pour la vie. Le 10 novembre, il est inscrit à la faculté de théologie de la Grégorienne. Il obtient son baccalauréat en théologie, puis en droit canonique. Puis les 3e et 4e années, ça lui vaut la licence, puis le doctorat en théologie. Le 26 juillet 1926, peu de temps avant sa mort. Tout le temps, il s'est appliqué, mais sans prétention. avec une intelligence claire et pénétrante. Il aime la clarté, puis il aime la simplicité. En théologie qu'il affectionne, il a tiré grand profit des traités de Saint-Augustin sur la Trinité. Mais il se plaint de manquer de temps pour lire. C'est le père Félix de la Vierge, un trinitaire, son ami intime, qui a déposé au procès de béatification, il s'intéressait au salut des âmes. Et jusqu'à la fin de ses études, spécialement jusqu'à sa dernière année, il a dirigé ses efforts pour se préparer mieux possible à l'apostolat. Alors, tout en poursuivant ses études, le frère Dominique Iturrate, peu à peu, s'est acheminé vers le sacerdoce, et ça lui est donné le 9 août 1925, c'est là qu'il est ordonné prêtre. Puis à ses parents, le 20 août 1925, donc, il écrit « Aujourd'hui, vous et moi sommes heureux, vous de compter un prêtre parmi les membres de votre famille et moi de me voir en ces saints murs comme le représentant de Jésus-Christ, prêtre éternel. Heureux les parents, oh oui, sachez-le bien, heureux les parents qui en leur vieillesse, quand la mort viendra les chercher, pourront dire « J'ai un fils prêtre qui offrira des messes pour moi, mais hélas, quand son père Simon Iturrate mourra le 9 juillet 1935, et sa mère Martha, le 6 janvier 1959, ce fera longtemps déjà que Dominique aura quitté le monde, mais ils ont eu au moins la joie, au procès informatif, sur sa béatification, de parler des vertus de leur fils. » Alors, le 29 juillet 1926, donc quelques jours après l'obtention de son doctorat en théologie à la Grégorienne, le bienheureux Dominique Iturrate écrit à sa famille, qui est toujours à Dima, en Pays Basque. Le 8 juin, une fièvre causée par une affection intestinale m'a contraint à la chambre. Et j'y suis resté 35 jours, jusqu'au 14 juillet. En effet, le 26, il a passé son doctorat, comme je vous ai dit, en théologie, puis il est allé aussitôt se reposer à Rocca di Papa. Le médecin qui l'avait examiné en juin s'était demandé si les symptômes de sa maladie n'étaient pas plutôt ceux d'un mal plus grave. Et le docteur avait mis au courant les supérieurs du frère Dominique. Et la question posée à celui-ci par son directeur spirituel qui lui rendait visite, laisse bien voir, hein, et il lui dit « Si c'était votre dernière maladie, seriez-vous content, frère Dominique ?» Alors il répond tout de suite, sur le champ, comme ça, sans hésiter, « Pourquoi non ? Refuser de mourir est une imperfection. » Curieux. Et avant d'être atteint, il avait déjà confié à son père spirituel, « J'envie les religieux qui meurent jeunes. J'envie en particulier la mort de Saint Gabriel de la Dolorata. » Et plus tard, comme il garde la chambre, là, il va écrire, « Quel bonheur de mourir jeune avant d'avoir reçu des offices ou des emplois. » Lorsqu'on a d'autres charges que celles de soi-même. À Rocca di Papa, là, c'est la campagne, il semble aller mieux. Mais quelques jours avant le 15 août, il est pris d'une toux persistante, très vive douleur à l'épaule. Il s'agit d'une tuberculose pulmonaire en état avancé. Il est serein, il exprime sa tristesse. Je m'étais préparé, de façon toute spéciale, à propager partout la dévotion à la Sainte Trinité. C'est pas une dévotion, la Sainte Trinité, c'est plus que ça. Hein. C'est un culte. C'est la clé. C'est l'essence même de notre foi. Mais il écrit comme ça partout la dévotion à la Trinité. Je le lui pardonne. J'avais étudié, dit-il, le dogme avec un soin particulier et à fond. Et alors? Ah, quelle passion il a hein, pour la Trinité. Mais après cette première réaction de déception, là, le bienheureux Dominique surmonte sa peine. Il veut se conformer en tout à la volonté de Dieu. Et le docteur Morelli conseille, en plus, de faire partir immédiatement Dominique au Pays Basque, pensant que l'air basque favoriserait sa guérison. Alors, le 3 septembre, il prend le train pour l'Espagne, il s'arrête à Lourdes, il prie beaucoup. Comme son directeur le lui a conseillé, il célèbre la messe afin d'obtenir sa guérison. Par l'intercession du réformateur de l'ordre, le bienheureux Jean-Baptiste de la Conception, dont le jeune religieux souhaite vivement la canonisation. La canonisation, d'ailleurs, a eu lieu le 25 mai 1975. Alors, il demande la santé. Oh, si elle ne m'est pas accordée, c'est qu'elle ne me convient pas, et la Sainte Vierge donne toujours ce qui est meilleur. Alors, le 5 septembre au soir, il couche à Bilbao, en Pays Basque, Puis le 6, il arrive à Algorta, où est le postulat des Trinitaires. Il y trouve le père provincial, qui le fait examiner par 3 médecins de Bilbao, des médecins compétents. Et le 13 septembre, il écrit « Si les choses ne vont pas comme nous voulons, que Dieu soit béni. Et quand tout soit fait de sa très sainte volonté. Ce que nous ordonne le Seigneur est toujours ce qu'il y a de meilleur et de plus utile. Alors le repos imposé le prive de la célébration de la messe. Il juge que c'est excessif, alors il recourt au provincial, puis dit « Mes jours me sont comptés. Alors qu'est-ce qu'un jour de plus ou de moins? Mais en revanche, combien de grâces ne suis-je pas privé en ne célébrant pas la messe? » Alors le provincial lui accorde la permission demandée, puis le jeune prêtre, Dominique Iturrate, peut à nouveau dire la messe, sauf un jour où il a une trop forte fièvre. Plusieurs fois, il ne peut dire la messe, mais s'il la célèbre, il s'y prépare par une demi-heure de raison. Il la fait suivre d'une demi-heure d'action de grâce. C'est rare. Hein? Ses parents attendent toujours qu'ils viennent pour une première messe à Dima dans leur village. Ils décident de satisfaire leur attente. Mais il peut que célébrer une messe basse, et non pas la messe chantée de 10 heures. Hein? Il n'est pas capable. Son frère Pierre le ramène chez son oncle prêtre, et là, il a une conversation très mystique avec son oncle. Comme c'est le mois de novembre, les deux prêtres parlent aussi de la mort, que Dominique envisage avec calme. Pour lui, c'est la porte de l'éternelle béatitude, de la rencontre de Dieu. Il est sûr que la mort pour lui est proche, à moins d'un miracle. Et son oncle a témoigné que les personnes qui le voyaient dire la messe ou prier à l'église déclaraient « Votre neveu, mon père, quel saint !» En quel respect ne plonge-t-il pas tous ceux qui l'aperçoivent à l'autel ? À fin de novembre 1926, Dominique, à 25 ans, doit partir pour Madrid. Et là, arrivé dans la capitale, le professeur Collard Arias, de la faculté de médecine, l'examine, et ce qui surprend ce docteur, c'est la résignation avec laquelle son patient accepte de ne se savoir touché par la mort. Aucune amertume, ce jeune homme ne peut être qu'un saint. Alors, les remèdes peuvent, dit-il, seulement prolonger sa vie de quelques jours. Et puis, le provincial l'autorise à dire la messe, et puis il dit qu'il va aller se coucher tout de suite après sa messe pour se reposer. Alors, j'ai dit, je suis venu ici pour quitter mon corps. Hic dormiam et requiescam, c'est ici que je mourrai et que je me reposerai. Et cependant, le 6 février, il commence une neuvaine spéciale au bienheureux Jean-Baptiste de la Conception, mais il n'obtient pas la grâce. Il n'obtient pas sa guérison. Le bienheureux ne m'a pas exaucé. Et dans sa dernière lettre, écrite le 29 mars à sa tante Justa, il dit « Je vais assez mal. Dieu soit béni. Je sais ce qui nous convient le mieux. » Alors, que tous récitent le credo, eh bien, ce grand et jeune serviteur de Dieu, très humble, très saint, il fixe son crucifix, puis il dit seulement « Tout de suite, mon Dieu, oui, tout de suite. » Puis il ferme les yeux. Il rend l'âme tout doucement, sans la moindre agitation, comme une chandelle qui s'éteint. Il n'avait pas encore 26 ans. Contrairement à Pier Giorgio Frassati, dont le corps ne s'est pas décomposé, celui de ce bienheureux commence à se décomposer rapidement. Comme le lendemain, jour de la compassion, avait lieu dans l'après-midi une procession, mais les funérailles du défunt ont été célébrées le matin à 10 heures dans une église pleine de fidèles. Puis son corps était transporté à la chapelle du cimetière communal. La loi voulait en effet que l'on attende 24 heures avant d'ensevelir un mort. La sépulture a eu lieu à 17 heures. Le tertre, surmonté d'une simple croix de bois, porte l'inscription « Il a bien fait toute chose ». En 1929, on a posé une pierre tombale, on a entouré d'une grille, et puis, le 30 octobre 1983, Jean-Paul II a béatifié Dominique du Saint-Sacrement, Dominique Iturrate. Dans son homélie, il l'a proposé comme un modèle pour aujourd'hui, par son témoignage de fidélité à la paix intérieure. et de réponse à celui-ci. La fidélité à l'Église modèle l'identité intérieure et conduit à la sainteté, dit le pape. Il a bien raison. Il y a une belle prière de Sainte Catherine de Sienne à la Trinité. Ô Esprit Saint, viens dans mon cœur. Par ta puissance, attire-le à toi, ô vrai Dieu, et accorde-moi la charité en même temps que la crainte. Ô Christ, garde-moi de toute mauvaise pensée. Réchauffe-moi et embrase-moi de ton très doux amour, et toute peine me semblera légère. Ô mon Père Saint, mon doux Seigneur, maintenant aide-moi dans toutes mes actions. Ô Christ amour, ô Christ amour.